Bonjour Isabelle Cachera.
Bonjour.
Vous venez nous présenter Empreinte, un ouvrage dont vous êtes autrice et qui est récemment paru. Un recueil de fils de vie sous forme d'un abécédaire assez singulier. Vous résidez à Bassieu-en-Vercors, mais vous semblez garder un pied dans la région du Nord, puisque d'ailleurs vous êtes native de ce département éponyme. C'est d'ailleurs le point de départ de cet abécédaire sensible de mémoire musicale, picturale et photographique qui commence par la lettre P. Mais je commencerai simplement par cette question. Pourquoi commence-t-il par la lettre P ?
Alors, je pense que j'ai écrit tous les textes. Une fois que tous les textes ont été écrits, il a fallu penser à un ordre. Donc, l'abécédaire ordonné, c'était vraiment trop compliqué. On a quand même essayé de faire une chronologie, en fait, puisque ça part de l'enfance. Et ensuite, c'est ma vie adulte, la maternité, mes parents, la maladie de mes parents, la vieillesse et la mort de mes parents. Et puis après, moi, ce que j'aime dans la vie, ce qui m'a touchée, l'amour, hein, parce qu'on ne peut pas ne pas parler de l'amour. Et ensuite, ma propre vieillesse, en espérant sagesse en même temps. Et de ce fait, la lettre P, parce que Pépé Paul. Donc, je suis remontée dans mes racines, mes ancêtres. Et donc, j'ai commencé ce recueil par mon grand-père maternel, qui habitait donc dans le Pas-de-Calais.
Voilà, un village avec un nom assez particulier, on pourrait dire.
Mes grands-parents des deux côtés sont originaires de Vingles, et non pas Wingles, comme on dit par ici, donc c'est Vingles. Mais mes grands-parents maternels ont... En fait, moi, je les ai surtout connus une fois qu'ils ont été dans un petit village qui s'appelait Ramcourt, qui s'appelle toujours Ramcourt. Et donc, il y a une différence entre mes grands-parents paternels et maternels.
Alors, on va parler de la gestation de ce livre, qui semble-t-il... a été pour vous une action aussi de, comme vous le dites dans l'ouvrage, de poser les mots, de marquer un petit peu une trace de ce que l'on peut vivre. C'est quelque chose qui vous a toujours habité ou vous êtes sur le tard motivé à poser ces mots ?
Alors, j'ai toujours aimé les mots, qu'ils soient écrits, qu'ils soient dits. Pour moi, les mots sont importants. Les mots doivent être dits. Et parfois, il est nécessaire de les poser et de les écrire. Pour moi, en tout cas, ça me permet de mettre une distance entre l'émotion du moment et peut-être de réfléchir différemment. Et quand on relit ces mots, l'intérêt de l'écriture, c'est qu'on peut y revenir. Et du coup, tous ces textes ont été écrits à différents moments de ma vie. Certains ont plus de 20 ans. Et je suis revenue sur ces textes. Et je les ai retravaillés pour certains, pour d'autres presque pas retravaillés. Et puis, bien sûr, il a fallu, comme c'était en abécédaire, il a fallu trouver toutes les lettres, il a fallu en trouver un certain nombre. Et de ce fait, les choses ont avancé tranquillement sans... pour écrire, j'ai besoin de... Il faut que ça sorte presque immédiatement. Si mes mots ne sortent pas, c'est que ce n'est pas le moment et je ne m'acharne pas et je n'attends pas que ça vienne et j'arrête, en fait. Donc, j'ai une écriture un peu instinctive, un peu naturelle. Et, donc, on écrit, enfin, en tout cas pour moi, j'ai souvent écrit aux autres des lettres, des vrais textes. Et puis, souvent, on m'a dit, mais tu devrais en faire quelque chose. Tu as une écriture qui est intéressante. Et donc, je les ai écoutées et j'ai tenté de faire ça. Et j'ai fait des ateliers d'écriture. C'est peut-être ça qui m'a peut-être mis le pied à l'étrier. Parce que les ateliers d'écriture, il y a quelqu'un qui accompagne et qui, pareil, m'a dit « Mais tu dois faire quelque chose de ces textes-là. » Et de toute façon, tant que tu n'auras pas écrit ces mots-là, tu ne pourras pas écrire autre chose. Mais alors, la difficulté était de ranger. En fait, comme je ne voyais pas d'histoire vraiment, à part la mienne, il fallait trouver un moyen de mettre ces choses importantes pour moi et de faire ce lien. C'était pas si évident que ça. Et à partir du moment où l'abécédaire est arrivé, en fait, c'était facile. Ça a borné mon travail. Et de ce fait, c'était vraiment facile. Après, ça a coulé de source. Et du coup, les textes sont arrivés les uns après les autres. Et alors, si on devait mettre un laps de temps pour écrire, je dirais vraiment pour mettre en forme quelques mois, mais pas plus que ça. Et ça a été plus long pour la mise en page, etc. Et tout le reste dont on parlera peut-être tout à l'heure. Voilà, j'ai une écriture assez instinctive, intuitive et entre guillemets facile. Celle qui accompagnait ces ateliers d'écriture, Marie-Adrienne Carrara, qui a d'ailleurs un site très intéressant et où on peut trouver des tas de choses qu'elle offre, hein. C'est vraiment gratuit, elle donne tout. Et en fait, elle m'a vraiment bousculée, elle m'a poussée pour que j'en fasse quelque chose. Et en fait, c'est elle qui m'a un peu guidée vers l'abécédaire. En fait, donc c'est grâce à elle que j'ai pu écrire, enfin mettre en forme ces textes-là.
Alors, un ouvrage original, disions-nous, car outre les différents textes référencés par des lettres, c'est aussi bien de la musique qui accompagne chaque lettre, chaque paragraphe, et puis aussi des photographies et même des illustrations.
Alors, les photographies, il y a des photographies pour mes grands-parents, par exemple, il y a des photos d'époque. Et ensuite, il y a des photos que moi, je prends sur les paysages. Et les illustrations sont celles de ma sœur Karine, qui dessine. C'est pas son métier, c'est juste un loisir. Mais je trouve qu'elle dessine bien. Et puis, il y a une aquarelle qui est de mon amie Jocelyne.
Et également, donc, musical sous un aspect assez, finalement, particulier, qui est assez malin, on pourrait dire, pour donner un contexte de paroles, de musique à vos textes.
Alors ça a été une sacrée partie du travail, je dirais, parce que quand j'ai commencé à penser à éventuellement en faire un livre, je me suis rendu compte en pensant aux différentes phases, aux différents événements de ma vie, que les différentes époques étaient toujours avec de la musique. Il y avait souvent une musique qui me revenait, ou pas, mais en tout cas, la musique est importante, a toujours été importante depuis que je suis petite. Je crois que vraiment, depuis que je suis petite, j'écoute de la musique. C'est aussi avec les copains à l'adolescence et les adultes, les copains adultes après. C'est vraiment les concerts. Écouter de la musique, c'est vraiment quelque chose de très important pour moi. Et donc, j'ai eu envie de faire, d'associer à chaque chapitre une musique. Donc, au début, j'avais la prétention de retrouver la musique qui correspondrait à l'époque. Mais alors là, ça a été un travail. J'ai ressorti tous mes 33 tours et puis j'en avais quand même un certain nombre. Je me suis dit, non, en fait, je ne peux pas faire comme ça parce qu'il y a différentes musiques, il y a différents morceaux. Et du coup, il y a ceux qui sont de l'époque. Et alors, peut-être que le lecteur ne trouve pas toujours le lien que moi, je fais. Parce que parfois, moi, ça me rappelle cette époque-là, mais peut-être pas vous. Et parfois, c'est aussi des musiques ou des chansons actuelles qui abordent le thème que j'aborde dans le livre. Si par exemple, je prends le chapitre Amour et la chanson de Clou qui s'appelle Bleu, et ben ça parle en fait de l'amour et de son parcours, pas toujours très droit et pas toujours très facile. Et donc, ça illustrait bien ce texte-là. Et puis après, il y a des musiques, moi, qui m'ont portée. Il y avait des chanteurs que j'avais absolument envie qu'ils soient dans le livre. Et donc, il fallait que je trouve, si je pense à Bachung, par exemple, ou à Christophe, ou à Arnaud, j'avais envie qu'ils soient dans ce texte, dans ce livre-là.
Voilà, qui donne de belles résonances à ces textes et ces différentes tranches de vie. D'ailleurs, quand on évoque la résonance, même les textes entre les paragraphes, ces lettres, s'entretiennent, ont un certain écho.
Ouais, alors ça, c'était assez étonnant parce que j'ai pas vu tout de suite l'écho. Si par exemple, on prend le texte Basculement qui parle d'une épreuve amoureuse, on peut dire amoureuse, avec une histoire très compliquée et très douloureuse au final, et est venu un texte, mais longtemps après, le texte Éphémère. Et en fait, on peut voir un parallèle, mais que je n'ai absolument pas vu tout de suite. Et je crois que c'est même pas moi qui ai mis le doigt sur ce lien, en fait, sur cette résonance. Et quelqu'un m'a dit, mais en fait, tu parles de la même histoire. Et je ne m'étais pas rendu compte de ça du tout. Et parfois, les images, et en fait, voilà, et ça. C'est ça aussi l'écriture, c'est que ça emmène quelque part où on ne savait pas qu'on allait aller là, en fait. Et du coup, c'est ça qui est assez fascinant. Et parfois, on ne se rend pas compte du lien ni de l'écho à ce moment-là. Et c'est en se relisant ou c'est en quelqu'un le perçoit plus vite que nous et nous en parle. Et du coup, mais oui, c'est une évidence. Et ça, c'est quand même assez... C'est vraiment un truc de l'écriture. Fait quelque chose qui vraiment...
Une autre dimension d'écriture qui nous échappe parfois.
C'est ça. L'écriture automatique. En fait, je pense que je pratique un peu l'écriture automatique. Pas totalement automatique, mais souvent, moi, je laisse laisse mon esprit partir et j'écris. C'est un exercice d'ailleurs, vous pourrez le faire chez vous. À un moment donné, tous les jours, j'écrivais, je me donnais un quart d'heure pour écrire. Alors, avec toutes les perturbations possibles, arrêt interrompu, téléphone qui ne fonctionne pas. Et pendant 15 minutes, j'écrivais, mais sans savoir ce que j'allais écrire. Et il se passe des choses étonnantes. Et en plus, on progresse en écrivant de cette manière, de faire quelque chose de régulier. Comme un musicien qui fait des gammes, je pense que l'écrivain, enfin en tout cas l'écrivain, celui qui aime écrire, peut pratiquer ça et ça aide.
C'est le subconscient qui travaille quelque
Exactement.
Part. Alors, un objet sensible, est-ce que l'on pourrait le considérer aussi comme un ouvrage de transmission ?
Alors, empreinte, ça veut un peu dire ça, oui. quelque part, ce mot. Donc, transmission, alors, au départ... quand j'ai décidé, enfin quand je me suis dit bah, je vais essayer, après on verra ce que ça donne, je m'étais dit bah, puis si je le publie pas, eh ben, ça sera pour les proches en fait, mes enfants, les amis, la famille. Donc la transmission, je dirais que forcément on laisse quelque chose, et puis c'est parfois des textes sont assez intimes et donc ça révèle aussi quelque chose de moi que je ne dis pas, en tout cas oralement, et moi les mots me permettent ça aussi. Ce que je n'arrive pas à dire oralement, c'est plus facile pour moi de les écrire, comme ça la personne les reçoit comme il l'entend et peut y revenir, peut les relire, et moi je trouve mieux les mots, et je... Non pas que je les choisisse vraiment, mais en tout cas, ils veulent vraiment dire et on ne m'interrompt pas, en fait. Je pense que quand... bon, ça n'empêche pas les échanges, bien sûr, à la suite, souvent. Mais en tout cas, moi, l'écriture, elle me permet ça. Elle me permet vraiment d'écrire ce que je ne sais pas dire, parfois.
Il y a des mots qui ont du poing, très évocateurs dans ce livre, et qui font aussi le fil de ces différents chapitres. C'est les rencontres qui semblent être... une harmonie humaine dans votre existence.
En fait, je crois que... Je ne sais pas si tout le monde... Peut-être que si. On se construit par les rencontres. Enfin, moi, en tout cas, je me suis construite par les gens rencontrés, par... bien sûr, la famille, on ne la choisit pas. Bon, j'ai de la chance. J'ai une famille que j'aurais pu choisir, en fait. Mais les amis, les copains, mais même dans le métier, dans le professionnel, dans toutes les rencontres, emmènent toujours plus loin et font... transforme en fait parfois notre mental ou notre vie. Il y a des rencontres qui les transforment, alors parfois douloureusement et parfois de manière joyeuse et pleine en fait, et très entière. Je suis quelqu'un d'entier, je pense qu'on peut dire ça.
Alors si on devait illustrer musicalement cet aspect de rencontre, de fil de vie, tout ce qui vous a forgé finalement, quelle musique que vous avez justement choisi, pourrait-on poser dessus ?
Alors moi, quand j'ai voulu parler, parce que j'ai de nombreux grands amis, je voulais faire un texte sur l'amitié et sur ces rencontres essentielles pour moi. Et je ne pouvais pas choisir à l'intérieur de ces amis-là de qui parler, je ne pouvais pas parler de tout le monde. Et du coup, j'ai repris une chanson de Daniel Auteuil. Et j'ai écrit de nouvelles paroles sur cette musique. Et donc, ça a donné... ça s'appelle « Nous ». Et donc, j'ai inventé ces paroles.
Écoutons cette chanson de Daniel Auteuil qui s'intitule...
« Si vous m'aviez connu ».
Je fondais de l'or si vous m'aviez connue, madame toute nue, pendant que je mourrais, auriez-vous déposé sur mes paupières closes vos larmes parfumées de cystée de rosée et du chagrin des choses.
Daniel Auteuil, si vous m'avez connu, voilà une certaine résonance de ce livre Empreinte de Isabelle Cachéra, qui nous présente justement cet ouvrage aujourd'hui. Cet ouvrage avec des mots, des situations très intenses. On peut parler également, on évoquait la transmission, les rencontres, mais on pourrait parler aussi du silence. Ça, c'est un beau texte que vous avez aussi écrit. Fait part de proximité avec les autres qui n'est pas forcément de la parole, du dialogue, qui peut aussi s'apparenter à des moments tout en plénitude qui sont du silence, c'est ça?
Je crois que le silence, au départ, j'avais des difficultés avec le silence. Pour tout dire, mon livre commence par « Un jour, ma mère est morte ». Et j'ai cherché son empreinte. Et en fait, c'est ce qui s'est passé. Mon rapport au silence depuis ce moment-là, c'est que je ne pouvais plus communiquer avec elle. C'était donc un silence. Et quand dans mes relations, on refusait de me répondre ou on refusait de parler, ça me mettait en colère en fait. Parce que je disais, mais en fait, on a encore les mots, on est encore là et on n'arrive même pas à se parler. Alors que j'aimerais tant encore avoir cette communication qui n'est plus possible. Et donc, j'ai dû apprivoiser le silence. Ça a mis du temps, ça a mis des années, je dirais. Et de trouver une communication nouvelle, de ce rapport au silence qui peut être un langage. J'ai appris cette manière de communiquer en faisant de l'accompagnement des personnes en fin de vie, suite à la mort de ma mère, mais 10 ans après, parce qu'il faut quand même laisser le temps de digérer et d'apprendre aussi de ça. Et j'ai eu envie de me servir de cette épreuve. Il fallait en faire quelque chose de cette épreuve dans ma vie. Il fallait grandir avec ça. Et du coup, je me suis rapprochée d'une association qui s'appelle JALMAV, Jusqu'à la mort accompagner la vie. J'étais à l'époque au Mans et j'ai appris à accompagner les personnes en fin de vie et c'était assez incroyable. Enfin, j'ai trouvé justement une relation à l'autre inconnue pour moi, parce que ce sont des gens qu'on ne voit pas longtemps, ce sont des gens qu'on ne connaît pas, qu'on n'aurait pas connus dans notre vie, dans ma vie, je dirais, classique ou ordinaire. On reste quand même, malgré tout, un peu toujours dans son même milieu. Et là, du coup, j'ai rencontré des gens que jamais j'aurais rencontrés ailleurs. Et dans ces moments de fin de vie, la parole est rapide, on va vite à l'essentiel, on ne se perd pas en discours qui ne font pas avancer les choses. Et c'était assez incroyable. Contrairement à ce qu'on peut penser, ça me donnait une énergie folle. En fait, à chaque fois que je ressortais d'un accompagnement, j'avais une énergie nouvelle et avec une envie de vivre encore plus décuplée et de goûter chaque instant, et notamment sur la nature, sur les arbres. Je sortais de là et vraiment, c'était comme si... je remerciais personne parce que c'est pas le cas, mais c'est vraiment une sensation de plénitude, c'est ça, et de vraiment de réalisation. Puis les échanges sont tellement riches et tellement, certes, on leur apporte quelque chose quand on les accompagne, mais eux nous apportent énormément aussi et assez extraordinaire.
C'est la raison pour laquelle vous incarnez le silence par une libellule.
Oui, la libellule. La libellule est, j'adore cet insecte. Et je le trouve beau, je le trouve léger et je le trouve aérien. Alors oui.
Et ce paragraphe qui aborde le silence se termine par « J'ai appris que le silence n'était pas l'absence ».
Exactement. Parce que l'absence, elle s'apprivoise. Alors je pense qu'elle est toujours... un peu comme le kintsugi dont on parlera tout à l'heure, où on avance avec nos blessures et on les sublime, on essaye en tout cas de les sublimer. Alors c'est pas tout de suite, ça prend du temps, ce n'est pas facile, mais je trouve que c'est une belle manière de rester optimiste et de croire en la vie et en la joie, je crois.
Alors poser des mots, Isabelle Cachera, c'est quelque chose qui aussi a été, on peut dire, plutôt positif. Quand vous avez traversé des épreuves, vous évoquez le départ de vos parents dans des conditions, on peut le dire, assez dramatiques. Ça a été aussi le fait de décrire un petit peu ces situations qui vous ont aidé à traverser ces épreuves.
En tout cas, la maladie de ma mère. Ma mère a été atteinte de la maladie de Charcot, la sclérose latérale amyotrophique. Donc, c'est une maladie incurable dont on ne peut pas guérir et qui va très vite. En tout cas, il y a plusieurs formes. Enfin, sous la forme dont était atteinte ma mère, c'est allé relativement vite. Et donc, justement, je crois qu'un des textes les plus anciens de mon livre Empreinte, ça a été écrit au moment de la maladie. Au moment de la maladie de ma mère, où il a fallu faire ce passage d'accepter la maladie, d'accepter aussi la déchéance de l'autre. Elle n'était pas vieille, elle avait 66 ans. Et donc, accepter ça et la laisser libre de sa vie et de ce qui restait à vivre. Parce qu'elle a toujours dit qu'elle n'irait pas jusqu'au bout, mais moi j'avais envie d'accélérer les choses. Alors qu'au final, on comprend que c'est celui qui va partir qui nous accompagne. Et du coup, après, il faut faire face à l'absence, parce que du coup, il n'est plus là pour nous accompagner. Je pense que l'accompagnement pendant la maladie grave, l'autre est là et il peut nous guider, il peut être présent et... Oui, nous montrer le chemin, quelque part. Mais quand on se retrouve seul, on a beau être préparé, puisque c'est quand même une mort annoncée, donc on sait qu'elle va arriver, et on a beau être prêt, croire que tout va aller bien, en fait, non, c'est pas facile. C'est encore une autre épreuve, qui est parfois même assez incompréhensible, parce qu'on dit, mais enfin, je suis déjà passée par tout ça, et là, pourquoi j'y arrive pas? Parce que l'absence, c'est quand même... je pense qu'on la mesure pas, quand on n'a pas vécu ça. Parce qu'à un moment donné, forcément, on le vit, quels que soient nos parcours. À un moment, on est forcément confronté à l'absence. Et pour mon père, alors lui, il avait 90 ans. Donc, on va dire que c'est dans l'ordre des choses. Mais on a fait, nous, les enfants et les petits-enfants, on a fait un accompagnement pendant un mois auprès de lui. On est resté vraiment son dernier mois de vie. Ça a été vite aussi. Et ça aussi, c'est... Après, c'est pas... Je ne donne pas de leçons là-dessus, parce que je pense que chacun fait avec ce qu'il est, avec ce qu'il a reçu, parce que je pense qu'on peut ne pas avoir envie d'accompagner ses parents. Ça dépend aussi des parents qu'on a eus, je pense, ou les parents qu'on a été, ou les amis qu'on a été. Et du coup, c'est vraiment pas une leçon, quoi. C'est vraiment pas un mode d'emploi, parce que je pense que chacun... c'est tellement intime qu'on peut pas... Il n'y a pas de vérité. Chacun doit la trouver à l'intérieur de soi et en avoir envie, et que nos parents nous aient donné envie de les accompagner jusqu'au bout.
Merci Isabelle. Cet ouvrage qui est une véritable mosaïque, puisqu'il y a des moments très sensibles de douleur, mais d'autres aspects aussi beaucoup plus légers hein, qui figurent, comme par exemple un petit chapitre qui est consacré au hammam ou des choses comme ça qui font partie aussi hein, de ce fil de vie.
Ben, j'ai eu envie aussi, au début, les textes me paraissaient un peu graves. Et je me suis dit qu'il fallait mettre un peu de légèreté entre ces thèmes abordés qui ne sont pas faciles. Et effectivement, Hammam, c'est un moment vécu formidable. Et puis aussi la nature. Moi, je me ressource beaucoup dans ce beau Vercors sauvage et doux, comme je l'appelle. J'y trouve vraiment un moyen de me ressourcer. J'essaye de marcher très souvent. Et d'ailleurs, quand je ne marche pas, je suis de mauvaise humeur. Et donc, je parle aussi du moment du confinement et de la nature qu'on a eu le temps d'observer. Mmh. Enfin, quand on a la chance d'habiter... pareil, j'ai mesuré à chaque fois la chance que j'avais d'habiter dans le Vercors et d'avoir toute cette nature autour de nous. Et un printemps, en plus, si vous vous rappelez, il était absolument splendide et merveilleux. Mmh. Et on avait le temps de regarder chaque jour une fleur différente qui avait poussé dans la nature. Et ça, c'est vrai que la nature est importante. Et donc, elle ponctue aussi ce livre. Il n'y a pas que ce passage-là. Il y a aussi des passages au Jardin des Plantes, au Mans. Voilà, il y a plein de... Oui, il m'a semblé que c'était nécessaire de mettre un peu de légèreté au milieu, parfois, des textes avec des thèmes plus lourds. Mmh. Oui, lourds, on peut le dire ainsi.
Et l'amour dans tout ça, à la lettre A, ça prend une bonne place.
Et l'amour dans tout ça, eh bien, pas facile. L'amour, enfin en tout cas, pas facile pour moi, là encore, hein, je ne parle qu'en mon nom. La vie à deux, moi je crois que c'est un... Parfois je me dis même que c'est une hérésie pour moi, qu'on n'est peut-être pas fait pour vivre en couple. Et en tout cas, moi, je crois que je ne suis pas faite. Pourtant, je vis en couple aujourd'hui, mais peut-être parce que justement, on a deux vies... indépendante et on a chacun nos activités, on se retrouve sur certaines. Mais quand j'étais plus jeune et avec les enfants et avec le travail et où on a le temps de rien, je faisais rire mes amis parce que quand je me suis séparée du père des garçons, je disais à mes copines, oh, mais c'est trop bien, on faisait une garde alternée, donc une semaine chacun. Je disais, mais c'est trop bien d'être en garde alternée, j'ai vraiment deux vies. Je leur disais, mais séparez-vous, c'est vraiment formidable. Et les garçons me disaient toujours, mais tu préfères quoi comme vie quand on est là avec toi ou quand on n'est pas là? Et je leur répondais, mais les deux. En fait, j'aimais bien quand ils arrivaient, mais j'aimais bien quand ils repartaient aussi. Donc, c'était... moi, j'ai trouvé que c'était chouette de vivre comme ça. Et donc, l'amour, c'est tout un art. Mmh. Je le dis un peu dans le livre, c'est comme une danse. Et donc, il faut écouter l'autre, il faut... accepter des choses, il faut on est un peu quand même obligé de faire des compromis, mais pas trop quand même. Et donc voilà, faut trouver peut-être la personne avec qui c'est possible ou réussir. Je trouve que c'est vraiment pas facile, je trouve, pour moi, l'amour.
Puisqu'on parle d'amour et de cœur, vous résidez à Vassieux, mais vous gardez toujours aussi un pied dans le Nord. Votre cœur bascule un petit peu entre les deux?
Alors, mon père a terminé ses jours dans le Pas-de-Calais, et donc je remontais souvent à l'époque. Et ma sœur est encore dans le Nord, et donc j'y vais une ou deux fois par an. Et là, dernièrement, je suis allée justement réaliser deux dédicaces dans le Pas-de-Calais, et c'était particulier parce que j'ai retrouvé des gens que je n'avais pas vus depuis longtemps. C'était très émouvant. Et. Sans être prétentieuse, je me suis rendu compte en fait que j'ai plein d'empreintes en moi, mais j'en ai aussi laissé chez les autres. Et ce basculement, c'est très troublant. Et en même temps, je suis fière de ça, en fait, de ces relations. Comme je disais tout à l'heure, je suis assez entière. Et les amis que j'ai, certains, je les ai depuis toujours. Et donc, j'ai toujours gardé des relations avec mes amis... proches, mes essentiels, comme je les appelle.
L'empreinte musicale aussi vous a toujours habité par déjà fredonner dans la voiture, écouter de la musique, bien sûr, vous êtes mélomane, et puis vous avez même poursuivi, même récemment encore, cet aspect de chanter.
Oui, alors chanter. Je crois que j'ai toujours aimé chanter un peu comme tout le monde, fredonner dans la voiture, sous la douche. Et puis quand je suis arrivée dans le Vercors, une amie m'a proposé un stage qui s'était passé à Saint-Agnan. Et je me suis dit, allez, banco, on y va. Et donc, c'était des chansons françaises. Il fallait arriver avec deux chansons françaises qu'on avait envie de chanter. Donc, moi, je n'avais jamais chanté devant quelqu'un et encore moins toute seule. Et ça a été une sacrée aventure. Mmh. Mais en fait, ça m'a donné envie de... Parce que j'ai aimé ça. Et ça m'a donné envie de chanter. Et donc, à Vassieux, on a eu la chance d'avoir Joël Truffat qui est venu nous proposer, à l'époque on nous appelait la chorale Chantecaille, et donc j'ai continué donc à trouver un plaisir, alors du coup plus toute seule, puisque ça c'est différent, parce que j'aime en fait chanter avec les autres, encore une fois c'est le relationnel. Côté ensemble, mmh. J'aime chanter avec les autres, j'aime ce que ça fait quand ça sonne vraiment bien entre les voix, j'aime ce qui se passe entre nous, j'aime ce qu'on vit en dehors, pas seulement en chantant. Et donc maintenant je fais partie de deux groupes vocaux, donc Chantecaille à Vassieux, mais aussi Tant que ça chante à Montméran. Voilà, j'ai vraiment beaucoup beaucoup de plaisir et de bonheur à chanter avec les autres, et les stages aussi, enfin je fais beaucoup de stages. Bref, c'est devenu une vraie passion, on peut le dire ainsi.
Il y a des répertoires qui vous plaisent particulièrement?
Alors moi, je chante surtout les chants polyphoniques, donc ces chants à plusieurs voix, où les différences s'accordent, et où je dis aussi, j'aimerais vivre dans ce monde-là où toutes les différences pouvaient enrichir au lieu de séparer. Et le chant donne ça, il donne cet ensemble où est-ce qu'on, non seulement on est heureux d'offrir au public qui vient nous voir, et le public nous donne aussi leur retour, et encore une fois c'est un échange, et vraiment chanter avec d'autres c'est vraiment un vrai bonheur.
Merci beaucoup Isabelle Cachera. Alors un petit exercice, si vous voulez bien y participer, à savoir lire un de vos textes avec une musique justement que vous avez choisie en accord. Et nous sommes sur un texte, on va peut-être en toucher un mot, qui donne peut-être une certaine résonance de différents textes, une petite fiction.
Voilà, c'était au cours d'un atelier d'écriture où la consigne était de parler au nom d'un objet. Donc on choisissait l'objet qu'on voulait et on écrivait ce qu'on avait envie. Et ce texte, au final, résume aussi ce que je crois aujourd'hui, que les épreuves, les blessures font grandir quand on arrive à un peu les sublimer. Et du coup, ce texte s'appelle « Kintsugi ».
Avec une musique aussi qui donne un très beau cadre, à mon lieu, à ce texte.
Paolo Fresu, Galliano et Lundgren. Je suis une vieille assiette, comme celle que l'on trouve chez nos grands-mères, creuse, ornée de délicats dessins de fleurs sur le bord. En porcelaine désuète, douce et un peu usée, je traîne sur un étal de brocante. L'autre, l'homme, trimballe tout le temps, espérant se débarrasser de moi. Ça ne marche jamais. Il faut dire que je suis un peu toute seule. Un dimanche, je le sens tout de suite. Son regard bienveillant et attendri me raconte qu'elle va m'emmener. Je lui rappelle peut-être une enfance. Je me retrouve dans sa petite maison, dans son buffet vieillot, en compagnie des autres. Chacune a son histoire. Pas une ne ressemble à l'autre. C'est une belle idée. Elle récupère toutes les assiettes dépareillées et solitaires. Ensemble, avec mes copines, on se marre bien. On a des tas de choses à se raconter, puisqu'on n'est pas pareil. Nos différences nous réjouissent et nous enrichissent. Moi, j'adore le moment de la vaisselle. Il est vrai que je déteste être sale, pleine de traces dégoulinantes. Parfois même je pue. J'attends avec impatience l'instant où elle me glisse dans l'eau chaude. C'est un pur délice. Elle est la reine de la vaisselle. Délicate, elle me caresse. Jamais elle ne me récure comme une brute. Si ça colle trop, elle me laisse tremper. Et je flotte alors dans une mer de douceur. Ma voisine de buffet m'a parlé du lave-vaisselle. Il paraît qu'on y est secoué, pas le temps de rêver, en asphyxie, arrosé sans cesse, alternance de chaud et froid. Les cochonneries des autres viennent se coller sur moi, Berk. Je suis rassurée, ma propriétaire adorée, Rose, nous aime trop pour qu'un tel engin de torture pénètre chez nous. Un jour, un maladroit bouscule le bahut. Dans un subtil ralenti, je tombe, cassée en deux. Des larmes coulent sur les joues de Rose. Incapable de me jeter, elle tente obstinément de réunir parfaitement mes deux morceaux, espérant que la fêlure s'évanouisse, disparaisse. Irréalisable. Rose se souvient du livre de Jeanne Benhamer avec son titre magnifique, La patience des traces, qui explique le kintsugi, cette tradition ancestrale japonaise, cet art de réparer un objet brisé avec un fil d'or. Elle achète une colle spécifique et ajoute une fine poudre dorée, l'applique sur mes bords cassés. Puis elle serre les deux moitiés l'une contre l'autre. Une fois sèche, elle polie ma surface avec soin. Au lieu de masquer la fissure, elle l'a sublimée. Ce filament précieux serpente sur moi. Je suis devenue plus belle qu'avant, encore plus spécialement unique. Fêlure sublimée d'un filament d'or comblé, vie réinventée.
Merci beaucoup pour cette lecture, Isabelle Cachera. Une fêlure qui se sublime, voilà ce qu'on pourrait retenir de cet ouvrage Empreinte, qui vient juste d'être publié. On peut parler d'un point de vue pratique, l'édition, comment ça s'est opéré?
Alors, j'ai essayé d'envoyer le livre à des maisons d'édition, mais en fait, très peu répondent, ne serait-ce qu'un non. Je trouve que ce serait un peu essentiel. Je trouve que ce serait respectueux envers le travail que les gens leur envoient, au moins de leur faire une réponse. Mais ce n'est pas le cas. Donc, il a fallu se faire une raison. Ils répondent que si entre 3 et 6 mois, il n'y a pas de réponse, eh bien, on peut estimer que voilà. Donc, on attend. Puis, au bout d'un moment, on dit non, je vais arrêter d'attendre. Et du coup, je suis passée à l'auto-édition. Parce que c'est de l'auto-édition, mais quand même avec une aide pour la diffusion. C'est-à-dire que quiconque aurait envie d'acheter Empreinte peut commander sur Books and Demand. Et toutes les librairies, mon livre est répertorié dans leur catalogue. Alors ça met une quinzaine de jours, on va dire, à arriver. Et puis dans les librairies du coin, vous pouvez le trouver également. Et donc l'auto-édition, c'est pas... S'il y avait eu que du texte, je pense que ça aurait été facile. Mais là, comme il y avait des photos, il y avait des musiques à inclure... Bref, c'était pas... Je suis néophyte en la matière. Et de ce fait, ça a pris beaucoup, beaucoup de temps. Si j'avais su, je serais allée directement chez une graphiste qui m'aurait aidée à ça. Mais je n'y ai pas pensé, on va dire. Donc, il y a Rachel qui m'a aidée pour la couverture, mais j'aurais dû penser à elle bien avant. Cette Books and Demand, c'est quand même entre les deux. C'est entre l'auto-édition et entre quelqu'un qui peut, une maison d'édition qui peut nous éditer. J'ai eu une réponse positive, si c'est vrai. Mais comme j'étais quasiment à la fin du processus, j'ai pas eu envie. Parce que je me suis dit, s'il me dit que ce texte-là, ça va pas, et s'il me dit que cette musique, ça va pas, et de mettre des musiques, c'est pas bien. En fait, j'avais plus envie. Ça y est, j'étais arrivée au bout de mon... C'est intéressant d'aller d'un début à la fin, mais... À la limite, ça a pris plus de temps que de l'écrire, presque. Mise en page et la mise en forme.
Livre entier, comme votre personnalité aussi. Donc, un bel écho avec les grandes enseignes qui distribuent, tout comme les libraires du secteur, à Saint-Jean-Royant, la librairie La Bouillotte, La Chapelle en Vercors, le Café des Loisirs et les Espelines à Bassu-en-Vercors.
Et puis, je voulais ajouter que ce que j'espérais avec ce livre, c'est que peut-être ça provoque un écho chez le lecteur et qu'il ait à son tour envie de parler de ses propres empreintes, ou d'en parler, ou de les écrire, ou de les dessiner, ou peu importe. Et en fait, les retours que j'ai beaucoup parlent de ça, en fait, que ça les a fait repartir dans leur enfance ou dans leurs propres histoires. Et en fait, c'est le plus beau des cadeaux que ce compliment. Pour moi, c'est un compliment. Donc, voilà.
Ça met le pied à l'étrier à de nombreux lecteurs pour ces empreintes de vie dont vous êtes l'autrice, Isabelle Cachera. Merci beaucoup. Juste pour préciser, vous le dédicacez aussi où il y a des présentations qui s'effectuent sur le Vercors.
Oui, alors je suis déjà allée à la librairie Avassu-en-Vercors aux Espelines. Et au mois de juin, le 19 juin, à 18h, je ferai une rencontre dédicace. J'aime bien le mot rencontre, parce que ce n'est pas seulement signer des livres, c'est aussi échanger avec ceux qui seront là, au Café des Loisirs. Et donc, le 19 juin, à 18h, c'est un vendredi soir. J'espère vous retrouver.
Avec plaisir. Merci beaucoup, Isabelle Cachère.
Merci à vous.